12. Susanna ressentit immédiatement la différence à l'intérieur de Mia. Elle avait beau avoir atteint le cochon du sud et être au plus fort de ses contractions, elle avait pour une fois l'esprit ailleurs. Elle était concentrée sur Odetta Holmes, en fait, et sur ce que Michael Schwerner avait appelé le projet été Mississippi. Quant à Michael lui-même, les bouseux d'Oxford l'avaient rebaptisé le Youpin. L'atmosphère émotionnelle dans laquelle se retrouva immergée Susanna était tendue, comme l'air immobile de septembre avant un violent orage.
« Susanna, Susanna, fille de Dan. »«
Oui, Mia. »«
J'ai dit oui à la mortalité. »«
C'est ce que tu m'as dit. »
Et Mia avait bien eu l'air mortelle à Fedic. Mortelle et terriblement enceinte. « Pourtant, j'ai raté presque tout ce qui fait la valeur de cette courte vie, n'est-ce pas ?» Le chagrin qui baignait sa voix était affreux. L'expression de surprise était pire encore.
« Et tu n'as pas le temps de me raconter, pas maintenant. »«
Va ailleurs, »
répondit Susanna sans aucun espoir.
« Elle, un taxi, va à l'hôpital. On l'aura ensemble, Mia. Peut-être même qu'on peut l'élever ensemble.
Si j'accouche ailleurs qu'ici, il mourra, et on mourra avec lui. »
Elle parlait avec une certitude absolue.
« Et je l'aurai, cet enfant, tu peux me croire. On m'a tout volé, sauf mon petit gars, et je l'aurai. »
« Mais, Susanna, avant qu'on entre, tu as parlé de ta mère. »« J'ai menti. C'était moi à Oxford. Mentir était plus facile que d'essayer d'expliquer les voyages dans le temps et les mondes parallèles. »«
Montre-moi la vérité. Montre-moi ta mère. Montre-moi, je te prie. »
Elle n'avait pas le temps de peser le pour et le contre. Il fallait trancher, le faire ou pas, à l'instinct. Susanna décida de le faire.
« Regarde, »
dit-elle. 13. Au pays des souvenirs, le temps c'est toujours maintenant. Il y a une porte dérobée. Oh, perdu. Et quand Susanna la trouva et l'ouvrit, Mia vit une femme aux cheveux noirs tirés en arrière et aux yeux gris étonnants. Elle porte une broche encamée au cou. Elle est assise à une table, dans une cuisine. Cette femme, dans une trouée de lumière éternelle. Dans ce souvenir, il est toujours 2h10 de l'après-midi, un jour d'octobre 1946. La Grande Guerre a pris fin. Il passe Irene Dye à la radio et il y a toujours cette odeur de pain d'épices dans la pièce.
« Odetta, viens donc t'asseoir près de moi. »
dit la femme à la table, celle qui est mère.
« Viens prendre un petit quelque chose. Tu as l'air en pleine forme, ma chérie. »
Et elle sourit. « Oh, tout errant que tu sois, chagriné par le vent, fantôme, reviens-moi. » 14. Plutôt commun, me direz-vous, je n'en doute pas. Une jeune fille rentre de l'école avec son cartable dans une main et son sac de sport dans l'autre. Elle porte son chemisier blanc et sa jupe plissée de Sainte-Anne et ses chaussettes montantes avec les petits nœuds sur le côté, orange et noir, aux couleurs de l'école. La mère, assise à la table, lève les yeux et tend à sa fille une part de pain d'épices tout juste sortie du four. Rien qu'un instant suspendu aux milliers de millions d'autres instants. Un atome errant dans une vie entière. Mais Mia en a le souffle coupé.
Tu as l'air en pleine forme, ma chérie.
Et elle vit de manière concrète qu'elle n'avait pas anticipé toute la richesse de la maternité. Si, bien sûr, on laissait à cette maternité le temps de s'épanouir. Les récompenses ? Innombrables. Ce pourrait être toi au bout du compte, cette femme assise dans son rayon de soleil. Toi qui escortes ton enfant tandis qu'il quitte courageusement le port de l'enfance. Tu pourrais être le vent qui souffle dans les voiles déployées de ton enfant. Toi.
Odetta, viens donc t'asseoir à côté de moi.
Mia sentit l'air envahir de nouveau sa poitrine.
« Viens prendre un petit quelque chose. »
Ses yeux s'embuèrent. Le cochon de bande dessinée sur son auvent vert se dédoubla, puis se dédoubla encore.
« Tu as l'air en pleine forme, ma chérie. »
Un peu de temps valait mieux que pas de temps du tout. Même 5 ans ou 3 ans valait mieux que pas de temps. Elle ne savait pas lire. Elle n'était pas allée à Morehouse, ni dans aucune autre maison, mais elle savait faire ce calcul élémentaire. 3 égale mieux que 0. Et même 1 égale mieux que 0.
Oh, oh, mais...
Mia pensait à un jeune garçon aux yeux bleus passant la porte, une porte trouvée et non plus dérobée. Elle se vit en train de lui dire
« Tu as l'air en pleine forme, mon garçon. »«
Qu'est-ce que j'ai fait ?» était une question terrible.
« Qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre ?»
était peut-être encore pire. « Oh, Discordia !» 15. C'était pour Susanna sa seule chance d'agir. Maintenant, alors que Mia se tenait au pied des marches qui la menaient vers son destin, Susanna mit la main dans la poche de son jean et sentit la tortue, la scolpata. Ses doigts bruns, séparés de la peau blanche des cuisses de Mia par la seule épaisseur du tissu de la doublure, se refermèrent sur la figurine. Elle l'extirpa de la poche et la lança dans son dos, l'envoyant rouler dans le caniveau, de sa main sur les genoux du cas. Puis elle se fit emporter en haut des 3 marches vers la double porte du cochon du sud. 16. Une semi-pénombre régnait à l'intérieur, et Mia ne vit au début que des lumières d'un rouge orangé terne. Des flambeaux électriques comme ceux qui éclairaient toujours certaines salles du château Discordia. Pour l'odorat, elle n'eut pas besoin d'un temps d'adaptation. Et alors même qu'une violente contraction venait à l'assaut de son bas-ventre, son estomac ne put résister à l'odeur de porc grillé et se mit à crier famine. Son petit gars se mit à crier famine.
« Ce n'est pas du porc, Mia, »
lui dit Susanna en vain. Alors que les portes se refermaient derrière elle, un homme, ou ce qui en avait l'apparence, se tenait de chaque côté de l'entrée. Elle commença à y voir plus clair. Elle se trouvait au bout d'une longue et étroite salle à manger. Du linge blanc luisait dans le noir. Sur chaque table, une bougie trônait dans un chandelier orange. Elle scintillait tout comme des yeux de renard. Dans le vestibule, le sol était de marbre noir, mais au-delà du pupitre du maître d'hôtel, s'étalait un lourd tapis d'un cramoisi sombre. Près du comptoir se tenait un saï d'une 60aine d'années, les cheveux blancs tirés en arrière, son visage mince rappelant celui d'un prédateur. C'était là le visage d'un homme intelligent, mais sa tenue... La veste sport jaune vif, la chemise rouge et la cravate noire étaient plutôt celles d'un vendeur de voitures d'occasion ou d'un joueur spécialisé dans les arnaques au pecno dans les trous paumés. Au milieu de son front brillait un cercle rouge d'environ 3 centimètres de diamètre, comme s'il s'était pris une balle à bout portant. Le sang bouillonnait à l'intérieur, mais sans couler sur la peau blême. Près des tables de la salle à manger se tenaient debout 50aine d'hommes et 30aine de femmes. La plupart portaient des vêtements aussi, voire plus, criards que ceux du majordome à cheveux blancs. De grosses bagues étincelaient sur les doigts boudinés et les diamants scintillaient aux oreilles, reflétant la lueur orange des flambeaux. Certains étaient habillés de manière plus sobre. Le jean et la chemise blanche semblaient l'uniforme de cette minorité-là. Ces Falken étaient pâles et attentifs. Leurs pupilles leur mangeaient les yeux. Autour de chacun d'eux, tourbillonnant avec une telle légèreté qu'elle était à peine visible, une aura bleue tremblotait. Aux yeux de Mia, ces créatures pâles et fantomatiques paraissaient un peu plus humaines que les ignobles. il s'agissait de vampires. Elle n'eut pas à chercher les crocs serrés que révélait leur sourire pour en être convaincue. Pourtant, ils avaient l'air plus humains que la bande de Seyr. Peut-être parce qu'ils avaient été humains autrefois, alors que les autres...
Leurs visages ne sont que des masques,
remarqua-t-elle avec un désarroi croissant.
Sous ceux que portent les loups, on découvre les hommes électriques, les robots. Mais sous ceux-là...
Dans la salle à manger régnait un silence suspendu. Pourtant, en fond sonore résonnaient des rires et des bribes de conversation, des tintements de verre qui s'entrechoquaient et de couverts cognant les assiettes. On entendit couler du liquide. « Du vin ou de l'eau ?» se dit-elle, puis un éclat de rire tonitruant. Un ignoble et une ignoble, lui en smoking à revers écossais et cravate en velours rouge, elle en fourreau lamé argenté sans bretelles, tous les deux hideusement obèses, se retournèrent pour regarder, avec un mécontentement visible, du côté d'où provenaient ces sons, vraisemblablement de derrière une sorte de tapisserie tape à l'œil, représentant des chevaliers et leurs dames en train de souper. Lorsque le gros couple se tourna, Mia vit leurs joues se plisser vers le haut comme une couche de caoutchouc, et l'espace d'un instant, sous l'angle arrondi de leur mâchoire, elle aperçut un lambeau rouge sombre et poilu.
Susanna, c'était de la peau ?
Demanda Mia.
Juste ciel, est-ce que c'était leur peau ?
Susanna ne répondit rien.
Même pas « je t'avais prévenu » ou « je te l'avais bien dit ».
Les choses n'en étaient plus là. Il était trop tard pour se sentir exaspéré, et même pour des sentiments plus légers que ça. Et Susanna était sincèrement désolée pour cette femme qui l'avait amenée ici. Oui, Mia avait menti. Et trahi. Oui, elle avait tout tenté pour faire tuer Eddie et Roland. Mais avait-elle eu vraiment le choix? Susanna se rendit compte avec une infinie amertume qu'elle était à présent en mesure de définir précisément ce qu'était un camé. C'était celui à qui on avait donné de l'espoir, mais pas le choix. Comme offrir une moto à un aveugle, se dit-elle. Richard Seyr, mince, la quarantaine, beau dans son genre avec ses lèvres pleines et son grand front, se mit à applaudir. Les bagues à ses doigts firent voler de petits reflets de lumière. Son blazer jaune ressortait dans la semi-pénombre.
« Heil Mia !»
s'écria-t-il.
« Heil Mia !»
reprirent les autres en chœur.
« Heil Mère ! » !»«
Heil Mère !» répétèrent les ignobles et les vampires, en se mettant eux aussi à applaudir. Ils y mettaient certes de l'enthousiasme, mais l'acoustique des lieux semblait étouffer les sons, ne laissant entendre qu'un chuintement comme le battement d'ailes de chauve-souris. Un chuintement affamé qui donna la nausée à Susanna. Au même moment, une nouvelle contraction la prit d'assaut, lui coupant les jambes. Elle bascula en avant en accueillant presque la douleur avec reconnaissance, parce qu'elle muselait en partie sa panique. Seyr s'avança et la saisit sous les aisselles avant qu'elle s'écroule. Elle aurait cru que ses doigts seraient froids comme la glace, mais ils étaient bouillants comme ceux d'une victime du choléra. À l'arrière-plan, elle vit une autre silhouette sortir de l'ombre. Une silhouette qui n'était ni celle d'un vampire, ni celle d'un ignoble. L'homme portait un jean et une chemise blanche toute simple. Mais du col de cette chemise émergeait une tête d'oiseau. Elle était recouverte de plumes d'un jaune foncé et lustré. Les yeux étaient noirs. La créature esquissa un bref applaudissement de politesse et elle vit, avec un désespoir encore plus grand, que ses mains avaient non pas des doigts, mais des cerfs. Une demi-douzaine de punaises déboulèrent dessous une table et la regardèrent avec des yeux plantés au bout d'antennes. Des yeux effroyablement intelligents. Leurs mandibules claquèrent avec un bruit qui ressemblait à un rire.
« Heil Mia ?»
entendit-elle à l'intérieur de son crâne. un bourdonnement insectile.
« Ah, Elmer !»
Et soudain, ils disparurent de nouveau dans l'ombre. Mia se tourna vers la porte et vit la paire d'ignobles bloquant le passage. Eh oui, c'était bien des masques. D'aussi près, impossible de se méprendre, de ne pas voir que les cheveux noirs et lustrés étaient peints. Mia se retourna vers Seir, le cœur brisé. Trop tard à présent. Il ne restait plus qu'à y aller. 17. Dans son mouvement, elle fit glisser les mains de Seir. Ce dernier resserra son emprise sur elle en lui saisissant la main gauche. Au même instant, on lui prit aussi la main droite. Elle pivota et vit la femme obèse en lame et argent. Son énorme poitrine avait tendance à déborder de sa robe bustier, qui se débattait hardiment pour endiguer le mouvement. La chair de ses bras ballottait mollement, diffusant autour d'elle un parfum de talc étouffant.
« C'est par là qu'il respire, » se dit Mia. « C'est par là qu'il respire, quand ils portent leur... »
Dans son désespoir croissant, elle avait un peu oublié Susanna Dean et tout à fait Detta Walker. Aussi, quand Detta Walker passa devant, bon sang, elle sauta plutôt sur le devant de la scène. Mia n'eut aucun moyen de l'arrêter. Elle vit ses bras se tendre, comme mus par une volonté qui leur était propre, et ses doigts se planter dans la joue rebondie de la femme en robe argentée. La femme se mit à vagir, mais curieusement tous les autres, y compris Seir, se mirent à rire à gorge déployée, comme si c'était ce qu'ils avaient vu de plus drôle de toute leur vie. Le masque de l'humanité se déchira autour de l'œil affolé de la femme ignoble, puis s'arracha complètement. Susanna pensa à ses derniers instants sur l'allure du château, quand tout s'était soudain figé et que le ciel s'était déchiré comme du papier. Detta tira sur le masque, qui se décolla presque complètement. Des lambeaux de ce qui ressemblait à du latex lui pendaient au bout des doigts. Sous le masque était apparue la tête d'un énorme rat rouge, un mutant avec des dents jaunes qui lui poussaient à travers les joues et des vers blancs qui s'agitaient dans ses narines.
« Vilaine fille !»
fit le rat en secouant un doigt vengeur devant le visage de Susanna Mio. De l'autre main, il tenait toujours la sienne. Le compagnon de cette chose, l'ignoble en smoking, riait tellement fort qu'il en était plié en deux. Mia vit quelque chose pointer à l'arrière de son pantalon. C'était trop dur pour être une queue, mais elle se dit que c'en était une quand même.
« Viens, Mia !» ordonna Seir en l'entraînant vers l'avant.
Et c'est alors qu'il se pencha vers elle, la regardant dans les yeux avec l'intensité d'un amant.
« Ou bien est-ce toi, Odetta ?
C'est toi, n'est-ce pas ?
C'est toi !» Espèce de sale négresse insupportable avec sa foutue éducation.
Non, c'est moi, espèce de sale culé de cul blanc avec ta sale gueule de hâte,
glapit Detta en lui crachant au visage. Seir se retrouva bouche bée. Puis il fit claquer sa mâchoire et eut un affreux rictus amer. La pièce était redevenue silencieuse. Il essuya le crachat sur son visage, sur le masque qui lui tenait lieu de visage, et le regarda d'un air incrédule.
Mia ? Mia, tu l'as laissé me faire ça, à moi ? Moi qui serais comme un parrain pour ton bébé ?
T'es rien d'autre qu'un tas de med, brailla Detta. Tu peux sucer ta bite de capapa pendant que tu te colles ton foutu doigt dans le trou de balle. Y'a que ça que t'es bon, espèce de débarrasse-moi d'elle,
tonna Seir. Et sous les yeux attentifs du public de vampires et d'ignobles du cochon du Sud, c'est exactement ce que fit Mia. Le résultat fut extraordinaire. La voix de Detta se mit à décroître, comme si elle se faisait escorter à la porte du restaurant par le videur et par la peau du cou. Elle abandonna toute velléité de discours et éclata d'un rire rauque, qui bientôt s'éteignit, lui aussi. Seir se tenait debout, les mains serrées devant lui, observant Mia d'un air solennel. Les autres non plus ne la quittaient pas des yeux.
Quelque part derrière la tapisserie des chevaliers et de leurs dames en train de festoyer, les rires et les conversations d'un autre groupe se poursuivaient.
« Elle est partie, » finit par dire Mia. « La sorcière, elle est partie. »
Même dans le silence de la pièce, sa voix était à peine audible, presque un murmure. Elle avait timidement baissé les yeux et ses joues étaient blêmes.
« S'il vous plaît, monsieur Serre, ça y sert, maintenant que j'ai fait ce que vous demandiez, je vous en prie, dites-moi que vous m'avez dit la vérité et que je pourrai élever mon petit gars. Je vous en prie, dites-le. Si vous le dites, vous n'entendrez plus jamais parler de l'autre. Je le jure sur le visage de mon père et sur le nom de ma mère, je le jure. »
« Tu n'as eu ni l'un ni l'autre, » asséna Seyr. Il s'adressait à elle sur un ton froid chargé de mépris. Toute trace de la compassion et de la pitié qu'elle lui réclamait était absente de ses yeux. Et sur son front, le trou rouge se remplissait et se remplissait encore sans jamais déborder. Une autre pointe de douleur, la plus forte depuis le début, planta ses crocs dans son ventre. Mia vacilla, et cette fois-ci, Seyr ne prit pas la peine de la soutenir. Elle tomba à genoux devant lui, posa les mains sur la surface brute et miroitante de ses bottes en peau d'autruche, et leva les yeux vers son visage pâle. Il lui rendit son regard, par-dessus le violent cri jaune de sa veste.
« Je vous en prie, » gémit-elle, « s'il vous plaît, je vous prie, tenez parole. »
« Peut-être, » répondit-il, « ou peut-être pas. « Tu sais, on ne m'a jamais léché les bottes. Tu te rends compte? J'ai traversé toutes ces années sans jamais me faire un bon petit léchage de bottes à l'ancienne. » Quelque part, une femme gloussa. Mia s'inclina.
« Non, Mia, tu ne dois pas !»
gémit Susanna. Mais Mia ne répondit pas. Même la douleur fulgurante qui lui déchira les entrailles ne suffit pas à l'arrêter. Elle sortit la langue et se mit à lécher le cuir râpeux des bottes de Richard Seyr. Susanna en sentit le goût de loin. Un goût de cuir épais et poussiéreux et cette saveur particulière du repentir et de l'humiliation. Seyr la laissa poursuivre un petit moment puis ordonna « Assez, ça suffit !» Il la tira rudement par les bras pour la faire lever et resta planté en face d'elle, son visage impassible à quelques centimètres à peine de celui de Mia. Maintenant qu'elle les avait vus, il lui était impossible de ne pas remarquer les masques qu'il portait, lui et les autres. Les joues tendues étaient presque transparentes, et des boucles de poils d'un rouge sombre se devinaient à travers. Ou peut-être qu'il fallait appeler ça de la fourrure quand ça recouvrait tout le visage. « Cette supplique ne te fait pas honneur, » dit-il, « bien qu'il me faille admettre que c'est une sensation extraordinaire. »«
Vous avez promis !»
s'écria-t-elle, essayant de se dégager de son emprise. Puis une nouvelle contraction frappa et elle se plia en deux, faisant de son mieux pour ne pas hurler. Dès qu'elle sentit la douleur s'atténuer légèrement, elle repassa à l'attaque.
« Vous avez dit 5 ans, peut-être même 7, oui, 7. Ce qu'il y a de mieux pour mon petit gars, vous avez dit. »
« Oui, » acquiesça Seyr. « Il est en effet possible que ça me revienne, Mia. » Il fronça les sourcils, comme s'il se retrouvait confronté à un problème particulièrement épineux, puis son visage s'éclaira. Au coin de sa bouche, un petit fragment du masque forma un pli, puis il sourit, révélant une rangée de chicots jaunes poussant dans le creux où ses lèvres supérieures et inférieures se rejoignaient. Il la lâcha d'une main pour brandir l'index en un geste pédagogique. « Ce qu'il y a de mieux, oui. La véritable question, c'est « Penses-tu remplir ces conditions ?» Des petits rires d'appréciation accueillirent cette saillie. Mia se rappela qu'il l'avait appelée mère et l'avait saluée d'un heil, mais tout ça avait l'air très loin déjà, comme un fragment de rêve qui a perdu son sens. « Pour ce qui était de se le trimballer, t'étais assez bonne pavée, »
demanda d'état depuis un recoin très enfoui à l'intérieur d'elle. Depuis le trou, en fait.
Ça, ouais. T'étais juste assez bonne pour ça, sûr.
J'étais assez bonne pour le porter, n'est-ce pas?
Cracha presque Mia à la face de Seir.
Assez bonne aussi pour envoyer l'autre gober des grenouilles dans les marécages en lui faisant croire qu'elle avait un goût de caviar. Pour ça, j'étais assez bonne, n'est-ce pas?
Seir cligna des yeux, visiblement surpris par la véhémence de sa réaction. Mia se radoucit.
Sai, songez à tout ce à quoi j'ai dû renoncer.
Foutaise, tu n'avais rien, répliqua Seir. Tu n'étais rien d'autre qu'un esprit insignifiant dont le seul but dans l'existence était de baiser le cow-boy errant de passage. La pute des vents. C'est bien ainsi que t'appelais Roland, n'est-ce pas?
Alors repensez à l'autre,
suggéra Mia.
À celle qui se fait appeler Susanna, je lui ai volé sa vie et sa quête, pour mon petit gars et sur vos ordres.
Seir se dédouana d'un vague geste de la main.
Ta bouche ne te fait pas honneur, Mia.
Aussi ferme-la. Il fit un signe de tête vers la gauche. Un ignoble avec un visage lunaire de bulldog et une épaisse chevelure grise et bouclée s'avança. Le trou rouge dans son front, à lui, avait une forme en amande, un air vaguement chinois. Juste derrière lui venait un autre homme-oiseau avec une tête de faucon brun sombre et féroce, émergeant de l'encolure ronde d'un t-shirt aux armes des Duke Blue Devils. Ils empoignèrent Mia. L'emprise de la chose oiseau était répugnante, rugueuse et étrange.
« Tu as été un excellent gardien, » fit Seir. « Là-dessus, nous sommes tous d'accord. Mais il ne faut pas oublier que c'est la gueuse de Roland de Gilead qui a réellement conçu cet enfant. N'est-ce pas ?»«
C'est un mensonge !»
hurla-t-elle.
« Mon Dieu, quel mensonge répugnant !»
Il poursuivit comme s'il ne l'avait pas entendu. Et des tâches distinctes requièrent des compétences distinctes. Il y en a pour tous les goûts, comme on dit.
« Je vous en prie !»
supplia Mia. L'homme faucon porta ses serres à ses tempes, comme rendu sourd par son cri. Cette petite pantomime spirituelle souleva des rires et même quelques acclamations. Susanna ressentit vaguement une onde de chaleur descendre le long de ses cuisses, les cuisses de Mia, et vit son jean s'obscurcir à l'entrejambe. Elle venait enfin de perdre les os.
« Allons-y, allons accoucher !» proclama Seir sur le ton surexcité d'un présentateur de jeux télévisés.
Il y avait trop de dents dans son sourire, une double rangée aussi bien en haut qu'en bas.
Après ça, nous verrons. Je te promets que ta requête sera prise en compte. En attendant, Heil Mia, Heil Mer, Heil Mia, Heil Mer, répéta en chœur le reste de l'assemblée.
Mia se retrouva subitement transportée vers le fond de la pièce, avec à sa gauche l'ignoble à tête de bulldog et à sa droite l'homme faucon, tous deux lui tenant fermement les bras. Le faucon émettait un sifflement déplaisant à chaque fois qu'il expirait. Les pieds de Mia frôlaient à peine le tapis alors qu'on la portait vers la créature oiseau à plumes jaunes. « L'homme canari », le baptisa-t-elle. Seir la fit s'immobiliser d'un simple geste de la main et se mit à parler avec l'homme canari tout en pointant le doigt en direction de la porte d'entrée du cochon du sud. Mia entendit prononcer le nom de Roland et aussi celui de Jake. L'homme canari opina de la tête. Seir agita de nouveau le doigt avec emphase en direction de la porte et secoua la tête.
« Rien n'entre par là !» disait ce mouvement de la tête.
« Rien !» L'homme canari acquiesça une nouvelle fois et s'exprima par gazouillis confus qui donnèrent à Mia l'envie de hurler. Elle détourna le regard, qui se posa sur la tapisserie aux chevaliers et aux dames. Il se trouvait assis à une table qu'elle reconnut. C'était celle de la salle de banquet de Château d'Escordia. Arthur l'aîné présidait,
couronne au front, son épouse à sa droite. Ses yeux étaient d'un bleu qu'elle avait vu en rêve. C'est sans doute le moment que choisit le cas pour faire glisser un souffle errant dans la salle à manger du cochon du Sud et écarter légèrement la tapisserie. L'effet ne dura qu'une seconde ou deux, ce qui suffit à Mia pour apercevoir derrière la tenture une autre salle. Une salle privée. Installée autour d'une table en bois, sous les mille feux ardents d'un lustre en cristal, lui apparurent une douzaine d'hommes et de femmes, leurs visages de poupées de chiffon déformés et fripés par l'âge et la malveillance. Leurs lèvres retroussées révélaient de gros bouquets de dents vermoulues. L'époque à laquelle ces monstres de la nature pouvaient refermer la bouche était de l'histoire ancienne. Des coins de leurs yeux noirs suintaient une substance goudronneuse et méphitique. Ils avaient la peau jaune, parsemée de dents et recouverte de plaques de fourrure galeuse.
« Qu'est-ce que c'est ?»
se mit à hurler Mia.
« Qu'est-ce que c'est, pour l'amour des dieux ?»
« Des mutants, »
lui répondit Susanna. « Ou peut-être que le mot hybride serait plus juste ?
Et ça n'a pas d'importance, Mia. Tu as vu ce qui avait de l'importance, n'est-ce pas ?»
Elle l'avait vu, en effet, et Susanna le savait. Bien que la tenture ne se fût écartée qu'un instant, elles avaient toutes deux eu le temps d'apercevoir la rôtissoire installée au beau milieu de la table et le cadavre décapité qui tournait sur la broche, sa peau brunissant et se plissant, dégorgeant des sucs de cuisson grésillant au fumet délicieux. Non, cette odeur dans l'air n'était pas celle du porc grillé. La chose tournant sur sa broche, marron comme un pigeonneau, était un bébé humain. Les créatures attablées glissaient leurs tasses en porcelaine fine sous le corps pour récupérer les gouttelettes de jus, trinquaient ensemble et buvaient. Le courant d'air s'évanouit. La tenture retomba en place. Et avant de se faire à nouveau saisir par les bras et emmener toujours plus profond dans les entrailles de ce repère à cheval sur de nombreux mondes traversés par le rayon, la femme en plein travail vit l'astuce dans la tapisserie. Ce n'était pas un pilon qu'Arthur l'aîné portait à ses lèvres, comme pouvait le laisser croire un premier regard distrait. C'était une jambe de bébé. Le verre que la reine Rowena brandissait pour porter un toast n'était pas rempli de vin, mais de sang. « Aïl, Mia !» s'exclama de nouveau Seyr. Oh, il était d'humeur toute guillerette à présent que le pigeon voyageur était de retour au bercail. « Aïl, Mia !» hurlèrent les autres en réponse. On se serait cru un soir de match de football dans un asile de fous. L'assemblée derrière la tapisserie joignit ses cris aux leurs, bien que leurs voix ne fussent plus que des grondements diffus. Et bien sûr, ils avaient la bouche pleine. « Heil, mère !» fit Seyr en accompagnant cette fois-ci son apostrophe d'une petite révérence grotesque. « Heil, mère !» répétèrent les vampires et les ignobles, et elle fut emportée par la vague cynique de leurs applaudissements, d'abord vers la cuisine, puis dans l'office, puis dans les escaliers au-delà. Et pour finir, bien sûr, il y eut la porte ultime.